L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyper-proximité, en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région? Quelles transitions adressent-ils? Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires? Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Edwine Bernardin.
Bonjour.
Alors vous êtes cofondateur de Commun Établi. Est-ce que vous voulez bien nous présenter le projet et puis surtout nous raconter ce qu'il a déclenché?
Alors Commun Établi, c'est un atelier d'artisanat partagé. Donc l'idée, c'est de proposer un lieu où on mutualise des outils et on mutualise des espaces, des compétences, des savoir-faire pour les métiers de l'artisanat. C'est un lieu qui s'ouvre aux artisans pendant la semaine et deux soirs dans la semaine et le samedi, c'est ouvert aux particuliers pour qu'ils viennent, eux, pour le coup, ils viennent pour bricoler.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce lieu, comme un établi ?
Moi, à la base, je viens du milieu du bâtiment, on va dire. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un bureau d'études en construction en bois. J'ai après refait un CAP de charpente pour travailler sur les bâtiments historiques. Et pendant ce CAP de charpente et pendant la période d'apprentissage en entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de charpentiers et charpentières qui avaient à cœur d'installer leur activité. Et au final, l'investissement en outils était freinant pour leurs activités. S'ils s'installaient, ils s'installaient avec une qualité d'outils qui était un peu plus faible et ils se limitaient eux-mêmes en fait dans leur production.
Donc c'est une forme de coup de pouce, au moins technique dans un premier temps, que vous pouviez leur apporter, mais peut-être pas que seulement technique. Le
Tout
rapport humain est important dans votre dispositif.
Exactement. En fait, ça, c'était le démarrage, on va dire. C'était une constatation. Et avec mon collègue avec lequel
Alors
on est amis d'enfance,
donc,
mon ami d'enfance, donc Benjamin, avec lequel on a monté comme un établi. On était aussi des bricoleurs en fait, du dimanche. On cherchait en fait, des espaces où c'était possible de le faire. Donc, il y a plein d'endroits où c'est possible de le faire. Mais on cherchait quelque chose qui était ouvert un peu plus, qui était un peu plus grand. On cherchait quelque chose, on se disait il y a quelque chose à faire et il y a aussi quelque chose à faire sur le volet des professionnels.
Alors, apport technique et peut-être aussi rompre l'isolement de jeunes entrepreneurs qui se lanceraient dans le métier. C'était un peu ça aussi l'autre motivation?
Exactement. Les artisans, souvent, ils vont s'installer, ils vont être seuls dans leur atelier, dans leurs locaux. Là, c'était faire en sorte qu'ils travaillent au même endroit, qu'ils puissent apprendre les uns les autres, en fait, avec des savoir-faire différents.
Donc, transmission de savoir-faire
transmission
aussi.
Transmission de savoir-faire. Et quand on a commencé à travailler sur ça avec Benjamin, parce que si on doit replacer un peu le truc, avec Benjamin, on a travaillé pendant un an, tous les deux, et après on a ouvert on a ouvert l'idée et on a travaillé avec d'autres personnes. Et pendant ces un an de travail avec Benjamin, on s'est rendu compte qu'il y avait une modification en fait de la manière de travailler. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'envie de travailler en individuel, et très vite, très tôt après leur formation, alors que ce soit des jeunes après leur diplôme ou des personnes en reconversion, l'idée c'était d'aller très tôt vers le fait de travailler et d'ouvrir sa société. Et ça rompait un peu tout ce qui existait avant, où en fait les personnes dans l'artisanat apprenaient en fait avec les autres personnes dans l'entreprise.
Avec les anciens avec ou avec leur père.
Exactement. Et là en fait la constatation a été faite qu'on ne pouvait pas aller contre cette manière de travailler. Par contre, ce qu'on pouvait, c'était contribuer. Donc en fait, mélanger plusieurs artisans qui ont une activité individuelle, chacun va avoir son activité, va avoir une spécificité, et en fait, le fait de faire travailler les personnes au même endroit, on recrée en fait l'entreprise qui était un peu en perte de sens, en perte de productivité, Voilà.
D'accord. En fait, la communauté est là. Il y a un partage de techniques. Il y a un partage de, finalement, de savoir-faire. En tout cas, il y a une transmission qui est faite. Il y a sans doute aussi un esprit un petit peu commun de s'inscrire dans un tiers-lieu avec cette idée d'échanger. Est-ce que ça fait partie des motivations des personnes qui viennent s'installer chez Comme un établi ?
Oui, tout à fait. Les personnes, elles vont chercher à rompre l'isolement, comme on disait tout à l'heure, et elles vont chercher un lieu dans lequel elles s'y sentent bien, parce que c'est un lieu qui a un coût aussi, donc elles réfléchissent quand même pas mal de temps avant d'y aller pleinement. Il y a tout un univers au sein de Comme un établi, il y a de l'entraide, il y a un projet aussi, qui est un projet coopératif derrière, parce que le lieu est une coopérative. Les gens ne sont pas forcément obligés d'adhérer à ce projet au démarrage. Par contre, on va faire en sorte qu'eux puissent le porter aussi, parce que c'est le lieu dans lequel ils travaillent. Et mieux vaut qu'ils s'y sentent bien et donc qu'ils portent cette logique.
D'accord. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'au bout de 2 ans, vous demandiez aux personnes qui profitaient des lieux, même si le mot profit n'est peut-être pas tout à fait adéquat, de contribuer, je dirais, financièrement pour une certaine somme qui correspond à une ou plusieurs parts selon leur statut. Vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus ?
Alors, c'est l'Assemblée Générale de Comme un Établi qui a voté le 25 novembre dernier l'obligation de devenir sociétaire pour les professionnels adhérents du lieu, donc utilisateurs du lieu. L'idée, c'était d'impliquer en fait l'ensemble des professionnels. Et c'était aussi pour eux, en fait, pour qu'ils trouvent leur place dans ce lieu, parce qu'on est quand même sur un atelier qui est sur 1500 mètres carrés, donc c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Il y a 42 personnes qui travaillent tous les jours dans le lieu, que ce soit salariés et toutes les entreprises individuelles ou plusieurs salariés. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. Pour que tout le monde s'y sente bien, il faut que les gens travaillent ensemble. Et l'idée, c'était de dire... Nous, on va vous accompagner sur le fait de devenir sociétaire. Par contre, au bout de 2 ans, vous allez avoir l'obligation de présenter votre candidature. Et c'est au conseil d'administration de valider la candidature ou à l'Assemblée générale s'il y a des questions.
Alors, Edwin Bernardin, on a bien compris qu'on était bien dans un système coopératif avec ce que vous venez de rappeler comme point important. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'écosystème ? Vous avez parlé d'une quarantaine de professionnels qui sont là. Combien d'adhérents et combien également de particuliers ? Parce que vous l'avez dit aussi, il y a des particuliers qui viennent pour bénéficier aussi de l'infrastructure.
La coopérative regroupe une centaine de sociétaires. Donc c'est une centaine de personnes physiques ou de personnes morales qui ont fait le choix de porter l'objet social de la coopérative et qui ont fait le choix de financer le projet. Dans les autres personnes en fait, qui vont être comme à établi, il va y avoir les professionnels qui vont travailler sur le lieu. Donc j'ai dit qu'il y en avait à peu près une quarantaine. Ces 40 personnes ne sont pas forcément sociétaires. Pour l'instant, elles ne sont pas sociétaires, et comme je disais tout à l'heure, elles vont le devenir au bout de 2 ans.
Voilà, au bout de 2 ans.
Alors les particuliers, donc il y a plusieurs en fait, strates de personnes, on va dire. Il y a ceux qui vont venir pour des cours de bricolage. Donc des cours de bricolage, il y en a 2 par semaine à raison de 5 personnes. Donc ça fait quand même un volume assez important sur l'ensemble de l'année. Il y a des personnes qui vont venir juste une demi-journée. Donc pareil, ça représente quand même pas mal de personnes. Et il y a des personnes qui ont fait le choix d'être abonnées annuellement. Donc ça devient en fait en quelque sorte leur garage ou leur pièce ou leur atelier. Et ils y viennent donc sur les temps d'ouverture. Et ça représente à peu près 10 de personnes sur l'année.
Alors, les filières maintenant, qu'on ait une idée un peu concrète des métiers qu'on peut trouver, des savoir-faire qu'on peut trouver dans ce lieu comme un établi.
Il va y avoir de l'ébénisterie, de la menuiserie, donc grosso modo du travail du bois, de la métallerie dans le travail de l'acier. Il va y avoir du travail du textile, enfin textile général, mais ça regroupe en fait de la maroquinerie, ça regroupe de la couture, de la tapisserie d'ameublement. Et après, il va y avoir tout type d'activités en fait qui ne rentrent pas dans un espace de coworking classique. Il va y avoir de la lutherie, de la reliure, tout type d'activité peut rentrer à l'intérieur de Comme un établi.
Alors, dernière question, et non des plus faciles. Si vous deviez faire votre rapport d'étonnement, quel serait-il ? Quels sont vos attentes, vos points de progression, peut-être vos petites déceptions ? On peut peut-être commencer par ça. On vous écoute, Edwin.
Alors dans les moins, c'est vrai qu'on avait au démarrage en fait du projet, on pensait que la mutualisation et le partage en fait des espaces était quelque chose de facile. On s'est rendu compte en fait pendant les 3 ans et demi qui ont passé que de faire travailler des gens au même endroit, c'était pas quelque chose de simple. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait ça, c'était une certaine tranche de la population en fait qui profitait du lieu, enfin qui l'utilisait.
Laquelle?
Alors plutôt
pour être précis.
des personnes qui ont des métiers qui leur permettent d'avoir une certaine rémunération, ce qu'on va plutôt appeler CSP+. Voilà, que ce soit des personnes artisans en reconversion ou des particuliers. Alors je ne dis pas que toutes les personnes sont comme ça, comme un établi, mais voilà.
Qu'on comprenne bien, Edwin, vous auriez souhaité qu'il y ait plus de mélange, c'est-à-dire qu'il y ait plus de jeunes, par exemple, de jeunes apprentis, en fin d'apprentissage qui viennent vers vous?
Exactement, qu'il y ait plus de jeunes en apprentissage, en fait, ces personnes en fait, qui ont fait le choix de l'artisanat dès le démarrage. Ce serait très intéressant d'en avoir plus dans le lieu et d'avoir une mixité sociale aussi plus intéressante, parce qu'il y a des personnes en fait, qui sont complètement écartées du manuel, et on va en trouver une bonne quantité dans les personnes qui ont des rémunérations moins importantes.
Et les plus, c'est surtout ce qui peut vous inspirer ou en tout cas vous donner envie de poursuivre l'aventure.
Les plus, c'est qu'on est toujours soutenu, que ce soit par les personnes qui sont dans le lieu et les acteurs locaux. Ils nous soutiennent toujours, portent le projet, et ça c'est vraiment.
Vous pouvez
très
nous en citer quelques-uns?
Il y a la ville de Rennes qui soutient énormément le projet. On est soutenu aussi par la région, par le département. Il y a plein d'acteurs publics qui soutiennent le projet et aussi d'acteurs privés. Typiquement, il y a une CAE, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Lien Créateur, qui est sociétaire de la coopérative. Donc voilà, il y a un tissu général qui est très intéressant.
Quelles seraient les pistes que vous voyez comme des pistes vous permettant de vous projeter un petit peu plus dans l'avenir ?
On aimerait travailler en fait avec des publics qui soient un peu plus écartés par exemple du système scolaire ou de l'emploi en fait, pour qu'ils viennent dans le lieu, découvrir des métiers, découvrir des idées, et que ça soit peut-être un tremplin. Et après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on aimerait travailler. Là, actuellement, dans la partie bois et dans la partie métal, on a 2 femmes. Donc ça, on aimerait aussi travailler sur ça, en fait, que les femmes soient beaucoup plus en sécurité et dans le confort en travaillant dans des ateliers qui sont souvent réservés aux hommes.
D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Est-ce que vous avez déjà identifié des pistes de progression?
Vu qu'on est une coopérative, on a un conseil d'administration de 12 personnes, et ce conseil d'administration s'est réparti certaines tâches. Et par exemple, il y a 2 personnes qui vont s'occuper de qu'est-ce que les femmes à l'intérieur de l'atelier vont avoir besoin, ou qu'est-ce qu'elles identifient comme étant un frein à l'accueil d'autres personnes. Et voilà, c'est.
D'accord, donc vous allez.
C'est pas forcément moi qui m'en occuperai, ni les personnes salariées, mais c'est la coopérative dans sa globalité.
Tout le monde se met à l'ouvrage, c'est le cas de le dire. Alors, merci infiniment, Edwin. Je rappelle que vous avez co-créé ce lieu comme un établi qui se situe, je vous laisse le préciser,
au 5 rue Banro, à la frontière entre Rennes et Saint-Grégoire.
Voilà, et j'ajoute que vous avez un très joli site dans lequel il y a des jolies photos, et effectivement, on peut voir toute la diversité de ce que vous proposez. Voilà, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.